Cette semaine, faisons un peu connaissance avec le Nord depuis une terrasse du village de Özenköy, à quelques kilomètres de Guirné ou Kyrenia en anglais, entre la montagne et la mer. Il est facile d'avoir des a priori, des préjugés sur la partie nord de l'île de Chypre. En effet, lorsque l'on lit les affaires politiques, etc., on a l'impression que la Turquie dirige tout d'une main de fer, on a l'impression que c'est moins développé que le sud, qu'il y a un véritable écart entre les deux, et les statistiques tendent généralement à le montrer. Mais aussi les statistiques tendent à montrer une situation qui ne correspond pas à 100% à la réalité. Et il y a d'énormes différences. Force est de constater, par exemple, que même les locaux appellent le Nord le côté obscur. Il s'agit en fait d'une affirmation, d'une description qui colle plutôt bien, puisque l'éclairage public au nord de l'île est assez absent. Et même au nord de Nicosie, qui pourtant est la capitale des deux pays, donc une ville importante et la plus grande de l'île. Alors c'est un côté obscur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage public, mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent, parce que la ville n'est pas très vivante par rapport au sud. Du moins, c'est ce qui se dit, pour il y a quelques années, sauf qu'il y a de plus en plus d'échanges depuis que la frontière s'est ouverte, depuis que c'est plus facile de passer, qu'il suffit d'avoir sa carte d'identité et plus seulement son passeport à jour, etc. Et du coup, il y a une véritable vie qui s'installe des deux côtés de la ligne verte de Nicosie, entre les jeunesses de chaque côté qui se retrouvent d'un côté ou de l'autre pour profiter de boissons moins chères, d'un cadre plus convivial. D'un point de vue géographique, le sud est notamment constitué autour d'une chaîne de montagnes que l'on appelle le Troodos, avec un littoral extrêmement large et une plaine au nord où Nicosie se trouve pile au milieu. Chypre Nord, par contre, c'est une autre affaire en fait. Une chaîne de montagnes que l'on appelle Pentadactylos au sud ou Five Fingers au nord. Et ces montagnes, en fait, ne forment qu'une seule ligne de crête extrêmement accidentée qui va véritablement couper le pays en deux entre la grande plaine de Nicosie, dans laquelle se pratique notamment l'agriculture, avec de grands champs de blé à perte de vue, et un littoral coincé entre la montagne et la mer. Chypre est une société qui se fonde énormément autour de la voiture, de l'automobile, et cela se constate notamment dans la plaine autour de Nicosie, donc dans la partie nord, où on trouve quelques amas de lotissements, de maisons toutes neuves, qui se ressemblent toutes, vraiment identiques, perdues au milieu de nulle part, avec une station-service, un supermarché. On pourrait trouver ça étrange que ce soit aussi perdu, qu'il faut quand même faire quelques kilomètres avant de tomber sur le prochain lotissement du même type, avant d'arriver sur une grande ville. Mais en fait, tout le monde a une voiture à Chypre. De plus, s'il n'y a pas un système de transport nationalisé au nord, il y a un système de bus qui est assez erratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire, mais des lignes fixes avec des normalement un taux fixe. Et du coup, les bus partent lorsque le chauffeur considère qu'ils sont suffisamment pleins et ils peuvent s'arrêter n'importe où pour récupérer des passagers ou les déposer. Ce qui fait que même s'il y a de grands espaces vides ou alors une agglomération extrêmement concentrée, il y a toujours des transports qui permettent d'aller d'un endroit à un autre si on n'a pas son propre transport. Concernant l'urbanisme de Chypre Nord, pour le dire simplement, c'est un joyeux foutoir. Des villas, des lotissements sont construits un peu partout, même dans les endroits accidentés où l'on aménage une crête, on l'aplatit afin de pouvoir construire une quinzaine de maisons toutes identiques qui partagent tous la même magnifique vue sur la prochaine crête avec le prochain lotissement. mais les anciennes villes, elles, se sont développées en s'étendant avec tout le monde qui se marche les uns sur les autres, un peu comme s'il n'y avait pas de véritable planification. Ce qui fait que les agglomérations sont extrêmement denses, étouffantes aussi avec la chaleur, et surtout, comme dit précédemment, la voiture est l'apanage du chypriote, et du coup, c'est pas du tout piéton-friendly, même si ça change dans certains endroits, notamment des lieux touristiques, où des zones piétonnes sont aménagées. On constate qu'il y a absolument toujours des voitures un peu partout, qu'il est dangereux, difficile de se déplacer à pied, et à vélo, il faut carrément oublier, ce n'est pas du tout recommandé. La question de la langue à Chypre Nord et à Chypre tout court est une question difficile que nous aborderons une prochaine fois, mais les premières impressions que l'on a en tant que touriste à Chypre Nord, eh bien, c'est que déjà la plupart, voire tout le monde, parle anglais, un anglais plus ou moins bon, hein, bien sûr, mais aussi il y a... Enfin, c'est difficile à constater si l'on n'est pas un local, mais il y a des différences au niveau de la prononciation de certaines villes, etc. Et c'est assez complexe, en fait, de savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas dire afin de froisser ou pas telle ou telle personne, sachant, comme nous l'avons dit précédemment, qu'il y a eu une vague de colonisation. Vraiment, 200 à 300 000 colons anatoliens sont arrivés en 1975 afin de repeupler la partie nord pour pouvoir renverser la balance démographique. Et en même temps, il y a eu près de 150 000 chypriotes turcs sur les 300 000 qu'il y avait il y a bientôt un demi-siècle. Et du coup, c'est un peu difficile de faire la différence entre les Turcs anatoliens et les Chypriotes turcs qui vivent à Chypre, sachant qu'ils ont des prononciations différentes et une perception différente de l'histoire, plus ou moins nationaliste, qui fait par exemple que la ville de Famagusta, de son nom italien puis britannique, s'appelle normalement la ville de Mausa, mais sur les panneaux, etc., c'est écrit Gazi Mausa, Gazi étant un préfixe qui met en avant le côté martyr de la ville. Et donc la ville s'appelle soit Mausa, soit Mausa la ville martyr, en fonction de si l'on est nationaliste ou pas. C'est la même chose par exemple pour Girne, certaines personnes vont dire immédiatement Girne, d'autres vont vous dire Kyrenia, par habitude de rencontrer des touristes, etc., puisque Kyrenia est le nom britannique. Mais pourtant, ils ne diront pas Kérinéa, qui lui est le nom grec, notez la subtile différence. L'influence turque est vraiment frappante au nord, ça c'est quelque chose de clair, notamment au niveau des drapeaux. Il y a beaucoup de drapeaux chypriotes turcs accompagnés de drapeaux turcs. Il y a de nombreux monuments qui se glissent ci et là, parfois au creux d'un col de la montagne Pentadactylos, des fois au milieu d'une ville, et il y a toujours ces deux drapeaux l'un à côté de l'autre. Mais ce n'est pas tout, l'influence turque se remarque aussi très concrètement avec des bases militaires. Il y a vraiment cette présence turque dont on ne peut échapper, présence turque qui se trouve aussi de manière plus subtile avec par exemple l'importation d'eau qui s'est fait depuis quelques années avec la construction d'un aqueduc reliant directement la Turquie à Chypre Nord pour approvisionner toute l'eau de Chypre Nord, mais aussi à travers certaines marques comme par exemple Turkish Airlines qui fait énormément de publicité et qui est la seule compagnie acceptée à l'aéroport de Erkan qui n'est pas reconnue internationalement et dont les vols sont obligés de passer par la Turquie pour pouvoir exister officiellement. Un autre avantage, ou certains trouveront ça un inconvénient, c'est le coût de la vie à Chypre Nord. C'est assez étonnant en fait lorsque l'on constate le taux de change entre la lire turque et l'euro, à quel point les choses sont peu chères. Par exemple, prendre les bus dont nous avons parlé plus tôt pour traverser Chypre Nord, pour faire de Girne ou Kyrenia en anglais à Famagusta ou Mausa en turc, eh bien cela coûte 12 lire turque, ce qui revient à peu près à 3 euros, voire moins. Les choses sont vraiment peu chères, la nourriture aussi, on peut trouver par exemple un paquet de pâtes à 2 lire 50 au lieu de 2,50 euros, sachant qu'une lire vaut 0,205 euros. Alors, c'est un avantage, bien sûr, puisque ça attire les touristes, ça attire l'investissement aussi, ça coûte moins cher, du coup, on va y mettre plus d'argent. Mais en même temps, le fait d'adopter la lyre turque fait que Chypre Nord peut vraiment être considéré comme une région de la Turquie, puisque son approvisionnement électrique, mais aussi en eau, dépend à 100% de la Turquie, ainsi que sa monnaie, dont le taux varie selon les banques d'Ankara et d'Istanbul, et non pas du tout selon les besoins de Chypre Nord. Derrière ce stéréotype si simple de ils sont pauvres de l'autre côté de la frontière, je ne vois pas pourquoi cette frontière devrait disparaître, je ne vois pas pourquoi on devrait changer, on devrait prendre un risque. Eh bien, même si c'est un espoir extrêmement optimiste, extrêmement fédéraliste, je trouve que Chypre et la réunification de l'île est un exemple parfait de l'état d'esprit qu'il nous faut pour nous rendre compte qu'il faut chercher une solution unie, une solution harmonieuse, harmonisée, qui satisferait tout le monde et qui permettrait à tout le monde de progresser sans jamais faire baisser l'un ou l'autre, et qui surtout permettrait de faire voler en éclats les stéréotypes que l'on a d'un côté comme de l'autre.